Le jour où on m'a dit va falloir faire tout seul, j'ai d'abord fait la gueule, puis j'ai ri de ma gueule. Tous ces mots qui dégueulent, ça fait une drôle de barbe.
Salut. C'est l'équipe d'Imaginaire jusqu'à 22h sur Radio G avec aujourd'hui Karine.
En effet, pour vous présenter le Festival Imaginaire qui se tiendra les 23 et 24 mai au Salon Kurnunski.
Eh bien oui, quand même, c'est le gros événement de notre association.
Eh bien oui.
Donc, on va en parler en première partie d'émission. Tu vas nous présenter les invités, les animations,
oui,
les
thématiques. En effet.
Et puis après, on aura une interview, Sébastien.
Oui, alors de Valentin Xicluna pour son tout premier livre-jeu édité. C'est quand même un grand éditeur, Larousse.
Ah oui.
La revanche des ombres, et ça parle de super-héros et de super-vilains. Et on incarne, Karine, une super-vilaine, donc quelque part une aile du pouvoir. Et c'est grosso modo le titre de l'anthologie Imaginaire de cette année.
Ouais, dont on parlera dans quelques minutes. Et on commence en musique avec le Rat Crew, duo d'électro polonais avec Dor, chanteuse angevine, une oui, petite collaboration avant qu'on les voit en concert ensemble, enfin ou l'un après l'autre. Ce sera le 27 mai à la Cale de la Savate lors de la soirée Angers Fête l'Europe spéciale Pologne.
Kraken, Laszlo, hologram, high roller, znowu na dole. Znak dymny z piwnic dziwnych, bruku brud, blask gwiazd, zapisane w DNA, demony, depresje, niespokojne deszcze. Wolę dreszcze w kosmos lecę, nie wracam jeszcze przecież. Dopiero zaczyna się bal ten, dopiero zaczynamy lot. Spadnę tu przed porankiem, jak lawina w ciemną noc. Zaczyna się bal ten, zaczynamy sztorm. Mrok wypełnia próżnię, bo różnie jest tu. Chaos, stres, nicość, entropia, dysleksja, dysfunkcja, listopad. Roje ludzi próżnych, ludzi zgubnych, z rejonu chandry, odmętu tundry. Jesteśmy gwiezdnym pyłem i tyle, jaką lubisz rybę, filet.
Le Rat Crew donc dans Imaginaire sur le 101.5 avec Dor sur ce morceau. On les retrouvera donc tous les trois le mercredi 27 mai, Cale de la Savate, pour la soirée des. On fêtera les 10 ans du partenariat culturel entre Angers et Toruń en Pologne. Il y aura donc un, il y aura aussi un troisième groupe, Nietzrask,
groupe de pop
qui nous vient de là-bas. Mais avant ça, le Salon Imaginaire. 23-24 mai.
En effet. Et avant de vous parler du salon, je vais vous parler de deux rendez-vous qu'on vous donne. Ce sont des ateliers d'écriture. Donc le premier se déroulera le samedi 16 mai. Donc ce samedi de 9h30 à 11h30 au salon T FICA. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Et puis ensuite.
Est-ce qu'il y a un thème sur cet atelier d'écriture?
Tout à fait, puisque c'est un cycle d'ateliers d'écriture autour de la figure féminine. Et donc le second se déroulera pile avant le salon, le vendredi 22 mai, de 18h30 à 20h30. Et ce sera à la librairie La Dévoreuse, ce coup-ci.
Donc pareil,
sous inscription.
C'est ça.
En effet. Et donc, le week-end du 23 et 24 mai se tiendra notre cher festival imaginaire. Donc, je rappelle les horaires. Le samedi 23, c'est de 10h à 19h. Et le dimanche 24, c'est de 10h à 18h. Ce sera l'occasion de découvrir un panel d'auteurs, d'autrices, d'illustrateurs, d'illustratrices qui seront en dédicace, ainsi que des maisons d'édition et de l'artisanat. Donc, pour vous donner quelques noms, il y aura notamment Fabien Cerutti, Aurélie Croiset, Lionel Davoust, Jean-Laurent Del Socorro, Manon Ségur, Katie Stewart, Daniel Thierry, qui recevra le prix Ayerdal de cette année, Laurent Well, Katia Lanero Zamora, qui a reçu le prix Julia Verlanger. Et puis, côté illustration, on aura...
Et Chloé Chevalier aussi, non, vient
de... Oui, tout à fait.
J'avais exactement. Bien aimé sa série de fantasy, c'était au mouton électrique, il y a un bon moment.
Oui. Mais là, justement, son dernier titre paru, il me semble que ce sont les essaims publiés par Mnemos. Donc, côté illustration, pardon, on aura notamment Lia, Botero Pop, Willow, Sini, qui nous a fait
l'affiche de cette année que vous avez peut-être déjà vue
tout à fait.
Sur les réseaux ou dans des vitrines angevines. On retrouve quelques femmes de pouvoir.
Qui est très belle. Hein.
En effet.
Qui viennent de la culture pop ou d'autres de notre monde contemporain ou de l'histoire, ouais.
Oui. Tout à fait. Et cette année, la nouveauté aussi dans notre salon, c'est la place à la romance. Donc on aura pas mal d'autrices de romance, notamment Laurence Chevalier par exemple. Il y a aussi Magali Lefebvre, donc Marine Chapin également. Et puis Marguerite Grimaud par exemple également. Donc voilà côté invité. Et le week-end sera marqué de tables rondes, dont une clôt à un cycle de conférences universitaires autour de la cité. Donc, donc ce sera à 15h pour cette clôture du cycle de conférences universitaires. Et puis, on aura notamment une table ronde sur les sorcières figures majeures du matrimoine, entre superstition, pardon, et sagesse, la figure de la sorcière ou de la déesse est le réceptacle du savoir et des désirs que ne peuvent comprendre les hommes. Pourquoi cette figure est aussi ancienne est-elle toujours autant d'actualité? Puis on aura une thématique.
En tout cas, elle est d'actualité aussi au château de Nantes. Là, en ce moment, il y a une expo sorcière jusqu'à la fin du mois de juin.
Ouais, c'est ça. Ça tombe pile poil. Donc on aura une autre table ronde également sous la thématique écrire un autre genre. La littérature assigne au genre des formes et des fonctions. Mais comment écrit-on un genre? À plus forte raison, un genre dans lequel on ne s'identifie pas, que ce soit dans son apparence ou son stéréotype. Peut-on écrire un genre indépendamment des luttes ou enjeux de genre? Donc ce sera très intéressant. Et puis, ce sera aussi l'occasion de remettre le prix Heyerdahl à Diane et Altieri, qui a été la première commissaire de France.
Divisionnaire.
Voilà. Et qui a notamment beaucoup participé à la place de la femme.
Et qui a écrit une série de polars avec une enquêtrice célèbre, série de polars qui vient de se terminer.
Tout à fait. Donc cette remise du prix sera à 18h. Et juste avant, on fera une petite rencontre avec elle à 17h. Mais il y aura également... une prestation de maquillage individuel de 10h à 16h pour accentuer son pouvoir et sa féminité par Caroline Alopé, une esthéticienne.
Tout ça, c'est samedi. Hein.
Voilà, tout à fait. Et il y aura également l'atelier d'écriture qui clôturera le cycle d'atelier d'écriture. Donc à la bibliothèque Saint-Éloi de 14h à 16h. Donc là, c'est en accès libre. Mais néanmoins, je pense que c'est bien de s'inscrire ou de se renseigner en tout cas. Il y aura également une animation musicale Place du Ralliement de 14h30 à 16h pour redécouvrir les compositrices oubliées adaptées par l'Association des musiques baroques de Savenière. Puis... le dimanche, il y aura des coups de cœur caféinés des illustrateurs et illustratrices. Donc, ce sont des échanges entre
alors,
illustrateurs.
De notre anthologie, hein,
oui.
Non ou
si. Ouais. C'est de notre anthologie. Tout à fait.
Donc, le recueil de nouvelles.
En effet.
Les ailes du pouvoir.
Voilà. On en parle dans quelques minutes. Donc, des animations jeux de rôle tout au long du week-end seront proposées également.
Notamment avec Istalerie qui nous sort un nouveau scénario de jeu de rôle qui est dans l'univers d'un des auteurs de Dark Fantasy qu'on reçoit.
Ouais.
Bon, je ne me rappelle plus du nom.
Alors, auteur de Dark Fantasy, j'avoue que je ne l'ai pas de tête.
Trois romans chez les trois Nornes, je crois.
C'est Arnaud.
Oui.
Cazel.
Voilà, oui, tout à fait.
Donc.
Et puis il y aura aussi d'autres parties de jeux de rôle, probablement sur la thématique femme de pouvoir, enfin, ou au moins avec des personnages joueuses.
Il faut s'inscrire.
On verra ça sur place.
Et donc, on aura également des fresques participatives. Et l'exposition
ça, c'est
de
l'anthologie. Les illustratrices du salon.
Oui, qui participent. Et même le public peut participer aussi.
Alors souvent, c'est quelque chose qu'on fait dehors. Hein,
oui, tout à fait.
Notamment peut-être parce qu'il y aura du graff.
Devant les salons Kurnansky.
Donc on espère qu'il fera beau quand même.
Ce serait mieux. Et donc, il y aura bien entendu l'exposition de l'anthologie Les Ailes de Pouvoir, où vous pourrez retrouver... les lauréats en fait de l'appel à texte annuel et notamment une petite nouvelle L'Ombreuse de Morgan Christine Di Grumel qui a été lauréate du concours de nouvelles qu'on a fait en partenariat avec l'ESPL.
Donc, très bien.
Petite nouveauté de cette année également. Et je crois que j'ai fait le tour.
Il y aura peut-être encore d'autres animations, c'est pas encore complètement calé, on peut pas vous en parler tout de suite, mais
il y aura des petites
surveillez
surprises.
Voilà les réseaux imaginaires. Alors est-ce qu'on parle de l'anthologie, Karine ?
Eh ben tout que dans cette anto, vous pourrez découvrir les textes notamment de David Brie, Philippe Casa, Chloé Chevalier, donc Morgan Christine Di Grumel, Aurélie Croisé. Éléanor Le Chardonneret, JMF Montfort, Nina Gorlier, Audrey Plenet, Manon Ségur qui sera présente, Marine Sivan également, Elodie Soranel, Morgan Stankiewicz, Françoise Théron. Et côté illustration, vous aurez les pattes de Ronald Bousseau, Lia, Casa, Shadow, Lola Coleno, Antoine Delalande, Evilis.
Et puis une couverture de signes.
Oui, tout à fait. J'y arrivais. parce qu'on j'ai pas fini au niveau des illustrations. On aura Mélicubration également, Enzo, Candice Roger, Sini Illu qui sera présente également au salon et Willow qui sera aussi sur le salon. Et effectivement, Sini qui nous a fait l'honneur de faire l'illustration de cette année au niveau de l'Anto.
Donc anthologie qu'on peut déjà commander actuellement ?
En effet, et trouvable sur le salon. C'est mieux de l'acheter sur place.
Ok. Ah oui, alors c'est une question sur la programmation. Est-ce qu'on aura des artisans, artisanes aussi ?
Oui, tout à fait. On en aura deux cette année. Donc House of de la Notée et le fil okay. et la plume.
Voilà. Donc ils fabriquent des petits objets un peu pop culture.
Oui, tout à fait.
Le fil et la plume, elle est plus. Je me rappelle qu'elle faisait très beau.
Oui, c'est des objets en lien avec la lecture.
Ouais, au moins avec le livre.
Ouais,
et House of de la Notée, elle nous faisait plus des bijoux.
Oui, plutôt. Elle fait des marque-pages également, mais c'est plus avec de la résine. Elle travaille la résine.
Tout à fait. Donc, venez voir tous ces artistes. Entrée libre, donc.
Oui.
Samedi 23, dimanche 24, mai, au Salon Kurnowski. Eh ben merci Karine.
Avec plaisir.
On va passer au choix musical de Sébastien et puis donc on aura ton invité.
De Valentin. Alors moi j'ai voulu lui faire une petite surprise. C'est la version au rose bonbon de 80.
Ouais. Donc version démo. Bon ben le morceau voilà on vous présente pas trop. Mais effectivement une version un petit peu rare. Ouais. Ouais. C'était bien en live parce que moi j'ai entendu des fausses notes, mais un peu comme dans le pastiche des inconnus.
Un de tes premiers concerts.
Hein. Ouais, c'est bien possible. Ouais. Une des toutes premières versions de l'aventurier qui n'est même pas complètement, complètement finie, il me semble. Il manque pas un peu des petits bouts là par rapport à,
c'est
à celle qui sortira un an plus tard en 45 tours. Ouais.
Il y a tellement d'artistes aussi qui l'ont repris. On a déjà passé sur Imaginaire, il y a eu Nada Surf. il a repris.
Ouais, on avait écouté une version de punk mélodique par, je ne sais plus, un groupe qui avait fait qu'un album il y a une quinzaine d'années.
Un ex de la Starac aussi.
Ah ouais. Avait repris en ça me dit quelque chose. Ouais. Ah, le téléphone sonne.
Oula.
Ah. Attends, hop.
Allô, allô.
Allô.
Tu m'entends?
Ah oui, on t'entend.
On t'entend, Valentin. On est bien sur le 100.5.
Eh ben, je suis là.
Super.
Bah, je suis très content de t'avoir. Donc, on va pouvoir parler de la revanche des ombres que j'ai mentionné donc en début là en présentation. Et d'entrée déjà, peux-tu Valentin, donc je rappelle ton nom d'auteur, Valentin Xicluna, peux-tu un peu faire un peu ta présentation, d'où tu viens, comment tu en es venu à écrire, un peu te présenter à nos auditeurs.
Oui, tout à fait. Et ben comme tu l'as dit, donc moi je suis Valentin Xicluna. J'ai 36 ans et en fait, comment j'en suis venu du coup à écrire un livre dont vous êtes l'héros? Ben moi en fait, tout simplement, je fais du livre dont vous êtes l'héros depuis que j'ai 6 ans. Donc ça va faire 30 ans cette année que je fais du livre dont vous êtes l'héros. C'est mon grand frère à la base en fait qui me lisait Loup solitaire quand j'étais gamin. Donc j'ai toujours un peu gravité dans ce monde-là. J'ai aussi pas mal dans mes expériences passées en fait travaillé dans le monde du jeu de société. Et donc en fait j'ai combiné un peu tout ça pour du coup écrire un livre dont vous êtes l'héros. C'était un projet que ça faisait quelques années que j'avais en tête. Et j'ai profité tout simplement en fait d'être au chômage pour écrire mon premier tome. Donc bah voilà en quelques mots. Moi je suis d'où? Je suis un peu de partout en fait. J'ai fini dans le sud de la France, j'ai fini mes études à Grenoble, ensuite après je suis parti faire le tour du monde et puis je suis rentré en France, j'ai l'impression que je bouge quasiment chaque année quoi.
Ouais, t'es un aventurier comme la chanson de l'aventurier d'Indochine.
Ah, c'est ça. Quand je suis rentré en France, ça va faire 4 ans maintenant. Je suis arrivé d'abord à Nancy, ensuite j'ai bougé à Vienne au sud de Lyon, ensuite maintenant je suis de retour sur Nancy et à la fin du mois je bouge dans l'Hérault. Donc
L'Hérault que je connais bien.
Oui, voyage autant que Bob Moran.
Voilà, tout à fait.
Alors dis-moi, donc t'as été édité en 2025 chez Larousse, donc pour ton premier livre-jeu, La Revanche des Ombres, qui comporte 390 sections. Mais dis-moi, c'est une story de rêve d'être édité chez Larousse pour un premier livre-jeu. Relate-nous donc ce qui t'a permis d'être remarqué par ce grand éditeur, s'il te plaît.
Ah oui, c'est sûr, c'est très cool d'avoir Larousse. Mais en vrai, en fait, je pense que c'est surtout que j'ai eu de la chance. En fait, je pense que je suis tombé au bon moment, au bon endroit. Car j'ai tout simplement en fait envoyé mon manuscrit à Larousse. J'ai eu une réponse assez rapidement, en fait, m'invitant à une visio quelques jours plus tard avec la responsable éditoriale de chez Larousse. Et ils ont manifesté simplement leur intérêt. Et donc, on a signé un contrat, du coup, début novembre 2024. Et un an plus tard, mon livre était déjà disponible un peu de partout dans le commerce. Il est sorti le 8 octobre 2025. Mais après c'est sûr que de base déjà mon livre jeu je l'ai toujours pensé en fait comme un produit que ce soit par le thème tout public, le système de jeu innovant, le mix entre jeux de société et dit donc être héros, etc. Enfin j'ai vraiment essayé de mettre le plus de chance de mon côté pour avoir du coup un produit, un livre, mais surtout un produit qui puisse intéresser les gros éditeurs quoi.
Et parce qu'il y a une collection de livres dont vous êtes le héros chez Larousse.
Il y a eu des escape books entre autres.
Alors Larousse, c'est l'éditeur le plus prolifique en livre-jeu au sens large, mais c'est essentiellement des escape books qu'ils font. En livre dont vous êtes les héros, ils ont déjà fait du livre-jeu avec, justement, ils ont édité les Endless Quest de Donjons et Dragons, enfin les deux premiers, ils n'ont pas édité la suite, il y en avait 6 normalement, mais c'était plus des choix narratifs, il n'y avait pas vraiment le côté livre dont vous êtes l'héros, donc je suis en fait le premier livre dont vous êtes l'héros chez Larousse.
Félicitations.
Merci.
Et parmi tout ce qui sort en livre-jeu chez différents éditeurs, pas que chez Larousse, des sommes et des sommes, un peu le fameux second âge d'or, comme le rappelait Marc, donc qu'on connaît en commun, Marc Twang sur l'émission des héros et des livres, le fameux second âge d'or de la littérature arborescente. Mais toi, comment tires-tu justement ton épingle du jeu, Valentin, pour que la revanche des ombres se différencie de tous ces autres livres-jeux qui sortent chaque année en masse dans les librairies, les boutiques?
Alors, en toute honnêteté, difficilement. C'est-à-dire, quand je suis là pour expliquer le concept de mon livre, qui est quand même, c'est sûr, ça marche fort, etc. Je fais pas mal de ventes quand je suis en séance dédicace ou autre. Mais malheureusement, je peux pas être de partout. Je ne suis pas encore omniscient, j'essaie, mais ce n'est pas le cas. Et donc c'est pour ça, mais après c'est vrai, bah, l'idée de base c'était vraiment de renouveler en fait le genre des Lits dont vous êtes l'héros, en faisant un mix non pas comme les classiques Lits dont vous êtes l'héros qui sont très jeux de rôle, mais plus du coup avec le côté jeu de société qui a vraiment explosé en fait depuis le début des Lits dont vous êtes l'héros qui étaient dans les années 80-90, où à l'époque bah, c'était très jeu de rôle, mais les jeux de société ça a explosé depuis les années 90 quoi. Donc c'était vraiment ça l'idée, donc dans la revanche des ombres en fait déjà ça se joue entièrement sans dés. Donc moi j'ai enlevé tous les dés qui sont un peu du coup le classique, soit les dés, soit les tables de hasard des Lits dont vous êtes l'héros. Ben, moi je me suis dit on va faire sans dés. Et à la place, en fait, moi, c'est des petits éléments ludiques disponibles en rabat, à découper, ou à télécharger via QR code, hein, parce que tout le monde n'a pas envie de découper son livre. Et eux, en fait, ces petits éléments ludiques vont servir de diverses manières en fait en cours d'aventure. Donc des fois, il faudra les placer sur des illustrations pour faire apparaître des numéros cachés, ou les combiner entre eux, faire apparaître différents symboles, etc. Donc il y a tout un aspect de jeu avec ça. Il y a aussi les illustrations qui différencient pas mal mon livre, parce qu'en fait dans La Revanche des Ombres, toutes les illustrations vont posséder soit des indices, soit des énigmes, soit des mini-jeux en fait cachés dans les dessins. Donc en fait tous les dessins sont pas juste là pour illustrer, mais il y a tout un aspect jeu là-dessus aussi. Mmh. Et en fait tout a été vraiment pensé pour en faire le livre-jeu ultime, quoi. C'est-à-dire que le livre en lui-même sert aussi d'élément de jeu. C'est-à-dire suivant les super pouvoirs qu'on aura choisis au début de l'aventure. On sera amené, par exemple, à regarder certaines pages par transparence grâce à notre vision laser, ou à courber une page avec notre super force pour superposer divers éléments, ou encore découvrir d'autres secrets pour avancer dans l'aventure, etc. Donc, bref, c'est vraiment, c'est un condensé, en fait, de bonnes idées, mais en un seul ouvrage.
Alors, je rappelle à nos auditeurs, là, du 101.5, qu'on peut en choisir 3 de super pouvoirs sur les 6 au choix, donc, dans les règles. Et moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'est que les règles sont clairement exposées et c'est vraiment des règles qui font que là, on a un livre-jeu qui est tout à fait jouable, ce qui n'était pas forcément le cas donc de certains livres-jeux, livres dont vous êtes le héros, qui mettent en scène des super-vilains. Et là, je vais en venir, c'est un peu l'instant nostalgie, Romain. Toi qui as connu le fameux Rendez-vous avec la mort,
c'est un de mes premiers livres dont vous êtes le héros, ça.
Un des tout premiers. Mmh, mmh. Donc, dis-moi, Valentin, en quoi tes jouquinages de livres-jeux super-héroïques, donc des Ecties, qui sont quand même des références en littérature interactive, je pense à La Nuit du Météore, de Doug Headline, donc Rendez-vous avec la mort, que je viens de parler. Comment, en fait, nourrissent-ils ta prose ludique de La Revanche des Ombres et de ses suites directes? Alors, je rappelle brièvement, mais on y reviendra un peu plus loin, que L'Agence du Mal, qui est le deuxième tome, il est disponible en PDF sur le site Litteraction gratuitement.
C'est ça. Tant qu'il n'est pas encore signé chez Larousse, il est disponible en téléchargement gratuit, justement, en ligne. Oui. Mmh. Le tome 1, justement, avant d'être signé chez Larousse, le tome 1 avait suivi le même traitement, c'est-à-dire que le tome 1 était disponible gratuitement, du coup, en ligne pour la communauté des amateurs de livres dont vous êtes les héros. Et je l'ai justement retiré en ligne suite au contrat d'édition, bien évidemment, parce que du coup, les droits étaient réservés par Larousse. Mais le tome 2, tant qu'il n'est pas signé, reste disponible aussi en PDF.
Et donc, est-ce que tu peux revenir sur cette nuit des météores? Ce qui est quand même pas mal d'éléments de La Nuit du Météore qu'on retrouve dans La Revanche des Ombres. On a un personnage qu'on peut colorier, donc en fin d'ouvrage, un peu comme dans La Nuit du Météore. Les points d'ego également, le maximum effectif qu'on peut atteindre, c'est 12 dans La Nuit du Météore. Et on a également des points d'ego dans La Revanche des Ombres, avec un maximum de 12. Est-ce que tu peux revenir un peu sur ces ouvrages, Nuit du Météore, Rendez-vous avec la mort, qui t'ont vraiment... conduit à vouloir faire un livre sur les super-héros, ben en l'occurrence sur une super-vilaine?
Oui, c'est sûr, comme j'ai dit du coup en intro, c'est vrai que ça va faire 30 ans cette année que je bouquine du coup des Lits dont vous êtes les héros, donc évidemment j'ai certaines influences. Et donc oui, pour parler en deux mots des titres que tu cites, il est vrai que ça résume pas mal en fait ce qui s'est fait en super-héros à l'époque en original, parce qu'il y a quand même eu quelques livres-jeux sur licence Marvel, mais on va dire que le niveau était quand même assez inégal. Mais c'est ça, mais il y a eu du coup Super Pouvoir de Doug Headline et David Monroch. Donc c'est une série française à la base qui était prévue en 3 tomes, mais qui malheureusement n'a jamais eu de conclusion, car uniquement 2 tomes sont parus. Donc La Nuit du Météore que tu cites, et le second Masque Jaune. Et on y joue en effet un super-héros, donc on va choisir au début ses super-pouvoirs et d'autres détails comme nos origines, notre race, on est humain, extraterrestre ou autre. Alors c'est très old school, hein. C'est fin des années 80, début des années 90, donc c'est bourré aussi d'humour, un peu comme les miens, mais d'humour des années 80-90. Donc pas toutes les blagues ont forcément bien vieilli, on va dire. Mais par exemple au début, quand on doit, je me rappelle au début de la nuit météore, quand on doit se changer en costume de super pour aider une demoiselle qui se fait agresser, on a différents choix, dont la fameuse cabine téléphonique. Et bien évidemment, la cabine n'est pas le bon choix, car transparent, tout le monde vous voit, ça ne marche pas, quoi. Ça marche que dans Superman de changer dans une cabine téléphonique, quoi. Et pour rendez-vous avec la mort, c'est vrai, il s'agit justement d'un défi fantastique, c'est le numéro 17 précisément. Lui, clairement, est déjà sur un ton un peu plus sérieux. Donc, on choisit au début notre super pouvoir et ça va décider en fait de notre histoire derrière. Car nous sommes sur ce qu'on appelle en fait dans le jargon un OTP, donc un One True Pass. C'est-à-dire un livre très linéaire où il n'y a qu'un seul en fait bon chemin pour atteindre la fin. Et tous les autres chemins, soit vont renvoyer sur le bon chemin, soit ils vont mener à une mort prématurée, ce qu'on appelle une PFA, donc un paragraphe de fin d'aventure. L'un comme l'autre fait partie de mes nombreuses sources d'inspiration qui m'ont aidé quand même à concevoir mon univers. C'est ça en fait, la Revanche des Angles, c'est un peu la quintessence de ma connaissance des livres dont vous êtes héros, de ce qui marche, de ce qui marche pas, et pourquoi, mais surtout comment ne pas tomber dans les mêmes écueils, etc. qu'on était fait à l'époque. Par exemple, dans la Revanche des Angles, il n'y a pas de mort gratuite, comme le fameux droite gauche qu'on a tous connu. Ah, tu as pris à gauche, t'es mort, c'était le mauvais choix, fallait prendre à droite. Comme on le sait, c'était total au hasard. De même, en fait, dans mon ouvrage, il y a de nombreuses énigmes, mini-jeux, etc. Mais aucune énigme est bloquante. Parce que pour ceux qui ont déjà fait des livres dont vous êtes les héros de la belle époque, qui ne s'est jamais retrouvé bloqué devant une énigme sans savoir où aller ensuite, fallait trouver la solution. Tant qu'on n'avait pas trouvé la solution, on était bloqué dans l'histoire. Je pense notamment, par exemple, il y a l'Arpenteur de la Lune, ou encore le Pirate de l'Au-delà en petit fantastique un peu plus récent, où à chaque fois il y avait une énigme, si tu la résous pas, tu peux pas continuer ton aventure, quoi. Dans la Revanche des Ombres, ça n'arrivera jamais. Parce qu'il y aura toujours en fait un petit chemin de sortie pour esquiver l'énigme. Alors avec un malus, quand même, c'est pas gratuit. Mais ça permet au moins de pouvoir poursuivre son aventure, de pas rester bloqué, avoir du fun, essayer d'atteindre la fin de l'histoire, quoi. Parce que je trouve ça super frustrant de tu restes bloqué sur l'énigme, puis tu restes bloqué sur l'énigme. Voilà.
Moi, ce qui n'a pas été mon cas, mais il y a quand même des énigmes assez piégeuses.
Corsé.
Ouais. En fait, moi, en plus, ce que j'aime bien, c'est qu'on bouge énormément. On a parlé de l'aventurier d'Indochine. Donc, tu vois, Romain, que Valentin, c'est aussi un grand baroudeur. Alors moi, je suis parti donc dans la Revanche des Ombres brièvement de Paris. Après, j'ai filé à New York. Après, j'ai refait un crochet par Paris pour ensuite atterrir en jet privé parce qu'on a un jet privé en tant que super vilaine. On incarne une super vilaine d'ailleurs, une héroïne. Donc là, je débarque à Sydney. Donc voilà un peu les quelques-unes des ludiques destinations qui sont offertes, mais dans l'ordre qu'on veut en plus par la Revanche des Ombres. C'est aux quatre coins de la Terre. Et en quête de 7 objets de pouvoir disséminés donc à la surface du globe. Dis-moi, Valentin, quelle importance ta carte du monde illustrée une fois qu'on l'obtient ? Parce qu'il faut quand même arriver à l'obtenir. Ce que cette carte crée-t-elle dans la conception de ton arborescence ? Tout en sachant qu'il y a l'existence de mots-clés qui ouvrent aussi à des destinations supplémentaires cachées.
Ah oui ? En effet, dans la Revanche des Ombres, je suis parti sur une aventure entièrement non linéaire. Donc via la carte du monde, nous allons faire le tour du globe, donc de destination en destination. C'est vrai que c'est pas le plus simple à écrire, mais l'idée c'est vraiment que ce soit en fait votre aventure à vous. Donc totale liberté là-dessus, vous pouvez faire n'importe quel lieu, dans n'importe quel ordre, etc. Normalement ça marche dans tous les sens. L'autre avantage des diverses destinations, c'est que de permettre en fait aux joueurs de faire des pauses en cours de lecture, parce que l'aventure est quand même assez longue. Moi, en moyenne, des retours que j'ai eus, c'est on est entre 5 et 8 heures en fait pour arriver à la fin de l'aventure sur une run. Donc une fois qu'on a fini une destination, par exemple si on a fini New York ou Mexico, on peut sur la carte du monde en fait cocher les destinations qu'on a déjà fait. Ça permet, on peut faire une petite pause, etc. On revient 4-5 jours plus tard sans forcément se rappeler ce qu'on avait fait avant. On sait déjà que les lieux qu'on a cochés, on a plus besoin de les faire, par exemple New York, Mexico, c'est plus à faire, donc ça au moins on n'a pas forcément besoin de se rappeler, le livre va s'en rappeler pour nous, et on peut se concentrer en fait sur ce qui n'est pas encore coché. Par exemple, on pourrait essayer d'aller faire Sydney, comme tu parles par exemple, ou partir à Le Caire, etc. Et par contre là, vu que tout en fait est lié dans le livre, ce qu'on a fait précédemment à Mexico ou à New York, ça peut influencer ce qui va se passer ailleurs. Mais comme on l'a dit précédemment, on ne s'en rappelle pas forcément. Et c'est là que les mots-clés rentrent en jeu. Et la feuille d'aventure, du coup, propose en effet une liste de mots-clés. Et suivant ceux qui sont cochés ou pas, le livre va savoir les choix qu'on a déjà faits et comment ça va influencer en fait le reste de notre aventure. Ce qui rajoute en fait encore toute une couche de rejouabilité, parce que suivant dans quel ordre on a fait les différentes destinations, ben on cochera pas les mêmes mots-clés, donc on découvrira pas les mêmes choses, etc. quoi. Et oui, en effet, comme tu l'indiques aussi, certains mots-clés débloqueront même de nouvelles destinations spéciales, mais ça je laisserai au lecteur le plaisir de le découvrir. Et il y a même, parce que du coup j'ai un peu un sadique, un super méchant moi aussi, il y a même certaines destinations secrètes qui ne seront pas débloquables dans La Revanche des Ombres, mais uniquement via les tomes futurs.
Ah, ça, c'est...
Donc, une fois que l'est fini, il faut pas le revendre. Ça pourra toujours servir.
Et y a-t-il pour les amoureux de solutions, tel Bradipus que je salue de la Taverne des Aventuriers, Forum Web, un des parcours optimaux?
Alors, de par le côté vraiment monde ouvert, non linéaire, j'ai essayé de faire que tous les chemins soient viables. Donc après, plutôt qu'un parcours optimal, c'est plus en fait une quête secrète qui est cachée dans La Revanche des Ombres et qui peut être découverte et complétée en suivant un parcours particulier. Et le niveau des énigmes de cette quête, et surtout la dernière, est clairement plus élevé que celle du reste du livre. Et de plus, en fait, pour la réussir, ça demande vraiment le chemin parfait en réussissant à recruter en fait tous les sbires. Mais je le rappelle, c'est optionnel. Vous n'avez pas besoin de la faire pour finir l'aventure. C'est un petit bonus en fait pour vraiment les passionnés, les aficionados du livre dont vous êtes les héros, pour vraiment en proposer pour tous les goûts, quoi. Parce que y en a, je sais qu'ils aiment bien genre tout faire et qu'ils vont vraiment chercher de partout, etc. Et donc il y a de fortes chances qu'ils tombent sur cette petite quête secrète, le petit bonus, quoi.
On aime bien les Easter eggs dans les livres jeux. Et tu raffoles, Valentin, également d'humour décapant dans La Revanche des Ombres. Et qu'est-ce que la dimension humoristique de ton œuvre apporte-t-elle au jeu?
Alors, je souhaitais déjà écrire une aventure de super vilaine, mais tout en restant tout public. Et c'est l'humour déjà qui me permet de faire jouer une super vilaine tout en restant tout public, parce que sans l'humour en mode réaliste, une vraie super vilaine, on serait plus sur du lit destiné à du 16+, voire de l'adulte, que vraiment du tout public, quoi. Et donc l'idée, c'est vraiment de rester dans le style de moi moche et méchant, ou des indestructibles. Et le tout, saupoudré allègrement de multiples références à la pop culture, le plus difficile, c'était de faire du vrai tout public. C'est-à-dire pas tomber dans le côté vraiment enfant, etc., mais vraiment avoir en fait plusieurs niveaux de lecture pour intéresser aussi bien les petits comme les grands enfants. Donc parce que un adulte va pas avoir les mêmes références qu'un enfant et vice-versa, pour vraiment soit intéressant pour tout le monde, quoi.
Alors on va faire une petite pause musicale. Peux-tu nous parler un peu de ton nouveau choix musical, Eye of a Tiger?
Tout simplement, justement, c'est comme dans La Revanche des Ombres, en fait, c'est les méchants, le gang de rue qui se prépare justement à la bagarre. Et donc, dans La Revanche des Ombres, en fait, au début de l'aventure, notre super vilaine, en fait, vient de se faire détruire son QG par la Ligue des Hardvengers. Troisième fois depuis le début de l'année, commence à en avoir un peu marre, donc elle décide d'aller prendre sa revanche, en fait, sur les super-héros. Et donc c'est un peu comme dans Eye of the Tiger, où si on écoute les paroles, etc., et avec le clip, c'est un peu ça, c'est vraiment, ils vont pour prendre leur revanche, quoi.
Ok.
On te dit à tout de suite.
Ouais, reste en ligne, on s'écoute donc Survivor dans Imaginaire sur le 101.5. retour avec Valentin Xicluna pour parler de son livre-jeu dans Imaginaire sur le 101.5.
Oui, voilà, on est en condition, notamment ma super vilaine que j'ai nommée, parce qu'on peut la nommer, donc, et pas que colorier ses vêtements. Je l'avais appelée Misty Griffe. Donc elle sort les griffes, Valentin. Et pourquoi plutôt qu'un super héros ou bien un super héroïne faire incarner au lecteur-joueur une super vilaine? Alors je rappelle qu'elle est le chef de l'Alliance des Ombres Incarnées et qui a, comme tu l'as si justement rappelé avant le passage de la musique, des comptes à régler avec la Ligue des Harvengers qui n'arrête pas de lui mettre systématiquement des bâtons dans les roues.
Oh, c'est leur boulot.
Alors, tout simplement, en fait, pourquoi j'ai une super vilaine? Car comme nous l'a montré le succès de la franchise Moi Moche et Méchant, les super vilains sont cool aussi, quoi. Et dans les livres dont vous êtes les héros, justement, on joue le héros. Mais moi, je voulais y aller vraiment à contre-pied. Donc déjà, ce n'est pas un héros, mais c'est une héroïne. Et en plus, c'est une anti-héroïne. Car faire le mal, mais gentiment, c'est jouissif quand même. C'est pourquoi ça devrait toujours être les gentils qui gagnent d'abord. Alors vous aussi, faites le mal, mais faites le bien.
Ça j'adore. Et associé à notre super vilaine des sbires, on les a mentionnés d'ailleurs avant, au cours de l'aventure, quel atout cela représente-t-il pour maximiser nos chances de réussite d'être accompagné par exemple, je pense à un qui m'a fait très rire, c'est Gros Kong, un peu qui sort tout droit un peu de Donkey Kong. Il y en a d'autres aussi qui sont très drôles. Oui.
Ouais. C'est indispensable tout simplement. De même que tout super-héros a son sidekick, tout super-vilain se doit d'avoir sa clique de sbires. Tous plus affreux les uns que les autres, évidemment. Donc, t'as cité Gros Kong, il y a aussi Amsterzilla, Colérix le Gaulois, le Stelfrog. Enfin, autant de personnages loin en couleur que vous pourrez tenter de recruter dans votre team en cours d'aventure, quoi. Et chaque sbire qu'on va recruter va nous ramener du coup ses propres compétences, etc. Et du coup, va nous permettre de faire des actions qu'on pouvait peut-être pas forcément faire avant, etc. Parce qu'on n'avait pas les compétences nous-mêmes, quoi.
Oui, et c'est ça qui est bien dans ton livre dont vous êtes le héros, c'est que si on n'a pas tel super pouvoir, on peut avoir un sbire qui nous apporte sa compétence et on n'est jamais bloqué. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a vraiment tout plein d'alternatives pour pouvoir poursuivre l'aventure.
C'était vraiment l'idée de balle, en fait, de faire un peu comme les blockbusters de Marvel ou autres de super-héros. C'était que vraiment faut que ça bouge, ça qu'il y aille, etc. Puis qu'il y ait du fun. On n'est pas là pour rester bloqué, se prendre la tête ou autre. C'est vraiment faut qu'il y ait du fun, faut que ça y aille à 200 à l'heure et on bouge, on parcourt le globe, machin, etc. Ça s'arrête pas, quoi.
Alors là, on a parlé des sbires, on en a cité quelques-uns. On a aussi en super héros donc les Harvengers, ils sont tordants, Supermanante, Captain America, Brise de Glisse, donc, en voilà quelques-uns. Et moi je me suis saucissonné de rire. En plus, ce qui est bien, c'est qu'ils ont un point faible à exploiter, mais il va falloir aussi le deviner. Et c'est pas forcément aussi simple que ça. Mais dis-moi, pour transformer Superman en Supermanante, Captain America en Captain America, le surfeur d'argent, je pense, en Brise de Glisse, en super drôle Avenger. Mais quels ont été tes ingrédients ludiques pour arriver à vraiment à ça?
Être papa, tout simplement. Je suis un peu un spécialiste des blagues de papa, donc les et de jeux de mots, en fait, simplement mixés avec toutes les nombreuses références geeks qui traînent dans ma tête. Ça donne en fait tout simplement une liste quasi infinie d'idées de super héros débiles. Par exemple, j'ai une idée pour un futur tome. Il y a seulement Albacore, le poisson de l'espace.
Et t'en as, Romain, d'autres qui te viennent en tête?
Ah non, moi, pas du tout.
Et pour des vétérans du livre-jeu comme moi, Valentin, et tout aussi comme pour Gilles Junio, qui est auteur lui-même d'AVH, et qui est cité d'ailleurs dans les remerciements au début d'ouvrage, tu pourras peut-être nous dire pourquoi. Comment t'y emploies-tu à nous piéger dans des paragraphes de ton histoire? À un moment donné, il fallait voler un œuf de Fabergé au musée du Louvre, et j'ai manqué un peu de jugeote, et je me suis fait avoir par Valentin. En fait, c'est assez facile, on a l'impression que c'est facile, mais à un moment donné, bam, il y a un petit piège, et là on se dit, il m'a quand même bien eu.
Alors, pourquoi le remerciement à Gilles Jugnot? Alors, je remercie Gilles Jugnot et la Ligue des Gentlemen Collectionneurs. D'ailleurs, je les remercie encore s'ils nous écoutent sur les ondes. Gilles Jugnot, tout simplement, parce que ça a été mon premier relecteur-testeur sur la revanche des ondes, justement, quand je l'ai écrit. Et la Ligue des Gentlemen Collectionneurs, c'est un petit groupe, un club privé, on va dire, en quelque sorte, de quelques amis, du coup, qu'on est. De collectionneurs de livres dont vous êtes le héros, etc. Et on s'échange des bons plans. Ils font aussi partie, du coup, de ma team de primo-testeurs. À chaque fois, j'ai des nouvelles idées absurdes ou autres. Donc, c'est pour ça que je les remercie, tout simplement, le petit clin d'œil à la communauté, à ma communauté. Et pour comment je me débrouille, en fait, en ayant moi-même lu énormément de livres-jeux, je connais un peu les biais cognitifs des vieux briscards. Et comment jouer tout simplement sur les codes des livres dont Zapiro pour vous surprendre et vous faire foncer tête baissée dans un piège. Parce que comme dit, faites le mal, mais faites le bien.
Alors la rencontre d'ailleurs de Hamster Zilia est source d'un mini-jeu plein de pages. On le voit d'ailleurs, ce sbire. On voit aussi Captain Merigra, donc quelques Harvengers aussi en illustration. Et pour toi Valentin, ces mini-jeux qu'ont-ils de plus fun ludiquement, parlant dans La Revanche des Ombres que de recourir au lancer de dés? Tu en parlais rapidement au début. Pourquoi les mini-jeux plutôt que les lancers de dés?
Déjà, tout simplement, les dés, c'est le hasard aveugle. Donc le lecteur n'a aucun contrôle là-dessus et subit tout simplement à son lancer de dés, quoi. À l'inverse, dans les nombreux énigmes et mini-jeux de La Revanche des Ombres, je fais un peu appel à la logique, à l'observation, aux mathématiques, mais je fais aussi appel au super-pouvoir qu'on aura choisi au début de l'aventure, etc. Et donc, il n'y a pas de hasard. C'est le joueur qui est en contrôle, c'est son aventure, quoi. Parce que, qui c'est qui n'a jamais ragé sur un mauvais jet de dés dans les anciens livres dont vous êtes héros? Ça vous fait perdre le combat contre un monstre, ou même contre le boss de fin ou autre, ou même rater une épreuve, le classique de genre « il y a une faille devant vous, faut que vous sautez par-dessus, faites un jet d'habileté, et puis là, on se foire lamentablement parce qu'on tire un 1, quoi. » Et donc, clairement, mourir pour devoir tout recommencer du début sur un mauvais jet de dés, c'est une autre frustration que j'ai décidé justement de gommer dans mon ouvrage, parce que moi-même ça m'est arrivé. Je pense que tous ceux qui ont fait des livres dont vous êtes l'héros, ça leur est arrivé. Justement, on parlait de Gilles Jugnot plus haut. Je sais que Gilles, maintenant, quand il refait des livres dont vous êtes l'héros, il saute tous les combats, justement, parce que il est là pour l'histoire, etc. Et puis clairement, se dire qu'il va foirer son combat sur un jet de dés, il a pas envie de recommencer de bouquin à zéro à chaque fois, quoi.
Bon, on peut aussi tricher quand on rate.
Tout à fait, mais normalement, si on respecte les règles officielles des livres de Zotero, t'as perdu le combat, c'est retour au 1.
C'est pour ça que moi, je n'arrive jamais au bout de mes chroniques, parce que je meurs souvent dans les vieux livres dont vous êtes le héros. Voilà la raison. Et tu voulais compléter un peu sur les illustrations, Romain, que tu me disais, c'était quand même un énorme travail, parce qu'il fallait que les illustrateurs, c'est un collectif, c'est ça, Valentin.
Il y a trois personnes de cité.
Trois personnes, et il fallait vraiment qu'ils arrivent à mettre bien les indices cachés, c'est vraiment tout un travail, tu voulais en dire plus?
Oui, alors c'est sûr que là-dessus, c'est sûr que chez Larousse, du coup, c'était un peu exceptionnel, ça, parce que ils n'avaient pas l'habitude, en fait, de ce travail-là, parce que généralement un livre, l'auteur il écrit l'histoire et l'illustrateur il illustre ce qu'il a envie. Et donc c'est ça, en fait, j'ai dû échanger beaucoup avec Larousse, etc., pour du coup, en fait, les énigmes ne soient pas buggées, tout simplement, dans les illustrations. Et c'est là, donc, j'étais très impliqué aussi dans la construction des illustrations, etc. Et c'était du coup beaucoup d'échanges avec Larousse, parce que comme dit, ils n'avaient pas l'habitude de ce process, parce que pour eux, normalement, l'illustrateur, il illustre, quoi, de son côté, il n'a pas forcément de lien direct avec l'auteur, parce qu'il n'y a pas tout ce côté énigme, mini-jeu, etc., caché dans l'illustration qu'il doit respecter, quoi.
Et également, on a un sac à dos qui peut contenir 8 objets maximum. Et je t'ai trouvé quand même bien espiègle. Ça me rappelle un peu quand on va à Sydney, à Paris, on peut rentrer dans des boutiques et les commerçants, ils sont énormes. C'est très drôle. Et moi, ça me rappelle un peu les livres dont vous êtes l'héros des années 80. On a des tas d'objets des plus insolites. Et c'est un peu le cas dans ton bouquin. J'ai l'impression un peu que tu te la joues un peu expiègle pour dire, est-ce que tu vas, toi, lecteur-joueur, prendre le bon objet dans les différentes boutiques qu'on visite? Est-ce que c'est vraiment un élément, les magasins, là, dans ta Revanche des Ombres, que tu as voulu vraiment travailler?
Alors c'est sûr que oui, il y a un peu de l'inspiration de Ian Livingstone, justement, auteur des tout premiers Livres et Clairaux, parce que c'est un peu lui le spécialiste justement des aventures où tu as 3 tonnes d'objets et tu arrives à la fin et en fait on te demande si tu as tel objet ou tel objet, et si tu les as pas, eh ben t'as échoué ton aventure. Donc c'est pas le cas dans La Revanche des Ombres, hein, je suppose, c'est sadique, mais c'est vrai que c'était un peu un clin d'œil aussi là-dessus, où en fait à chaque fois tu as 3 tonnes d'objets puis tu sais jamais lesquels on va te demander à la fin, quoi. Et là c'est un peu pareil, il y a des objets inutiles totalement, mais il y a pas mal d'objets qui semblent être des objets inutiles et qui au final dans une situation spécifique peuvent se trouver utiles.
Je confirme. Alors merci Valentin, donc je pense qu'on a fait un très beau tour d'horizon donc de Ta Revanche des Ombres, qui est édité chez Larousse et qui a concouru au prix du livre jeu 2025, comme il est sorti l'année dernière, et la suite papier L'Agence du Mal est une sortie attendue après La Revanche donc des Ombres, qui est réjouissante à jouquiner. Et cette agence, pour conclure Valentin, quel challenge offre-t-elle en plus de ceux multiples déjà de La Revanche des Ombres?
Alors dans le tome 2, L'Agence du Mal, donc M.A.L, hein, pour faire du coup un petit clin d'œil avec justement Rendez-vous avec la Mort, M.O.R.T. Alors déjà on change de style, donc on est très très loin dans le futur, dans un univers cyberpunk, mais toujours tout public. Et oui, je fais du cyberpunk tout public, c'est encore un thème inexploité dans la littérature. Et donc comment on arrivera loin loin dans le futur? Eh ben vous le saurez à la fin du 1. Et donc du coup pour la nouvelle petite gimmick, c'est tout simplement en fait le filtre rouge. Parce que qui dit cyberpunk dit matrice. Et donc pour faire la différence en fait entre le monde réel et le monde virtuel, dans mon livre, je vais utiliser en fait le filtre rouge. Et donc lorsque notre héroïne en fait elle va enfiler son cybercasque dans l'histoire, nous on va utiliser le filtre rouge pour nous aussi en fait passer de l'autre côté de l'écran, et ça va permettre du coup de découvrir des paragraphes cachés qui par le filtre rouge qui vont devenir visibles, ou des fois dans l'illustration nous permettre de faire apparaître ou disparaître des choses, etc., en jouant justement avec le filtre rouge. Et il y aura aussi plein d'autres petites gimmicks pour se prendre, hein, comme toujours, mais c'est ça, du coup ça va être un peu la grosse nouvelle mécanique du tome 2. Et en tout cas je voulais vous remercier aussi pour certaines interviews, et surtout faites le mal, mais faites le bien.
Merci à toi, et c'est vrai que c'est un bouquin vraiment excellent, avec aussi beaucoup de succès aussi à débloquer, ce qui donne vraiment une envie de tout explorer à fond, et vraiment il y a une rejouabilité maximale. Donc je vous conseille chaudement, amis auditeurs du 101.5, cette Revanche des Ombres, et de vous jeter dessus après sur L'Agence du Mal, qui est encore disponible gratuitement sur le site literaction.fr. Merci Valentin, et à bientôt.
C'est ça, et La Revanche des Ombres, petit prix en plus, 14,99.
Oui.
Merci Valentin, et on écoute ton dernier choix musical, Deluxe, avec le morceau Superman. C'était en 2011, sur leur premier EP. À bientôt.
À bientôt. Bye bye. Bonne soirée. It's in the sky, it's a bird, it's a plane, it's Superman. Yes, it's Approche. Superman, strange visitor from another planet who came to Earth with powers and abilities far beyond those of mortal men.
No like it better move. The Alexa come on with the musical smoothie. Super bad man away the girl them call me. Wicked in a bed we make you bubble like Pepsi.
Bubble like Pepsi.
Fixin' about the girl, them off it wind up them booty. Hattie hattie them, they want to taste my sensi. Ability, limity, glamity boy, anything goes.
Tell you miss it, anything goes.
I'm a big DJ, slipping out the way. Never ever
fresh out the phone booth. I fall from the sky, but when I do, I land on my own too. Follow you guys, nah, dude, I fly to my own tune. Proper disguise up in the sky without the blue costume. I got moves, usually charge a fee, but my services are free to the populace. The mayor gave me the key to Metropolis, and so I mess through your Lex Luthor's plex in a touch deluxe deluxe next to us. West up, your losers could put an X to them. We musics, Professor X students. I think I'm Clark Kent, Bruce Banner, fresh Buddha, move when a loose cannon next to your monsters. But oh well, we're keeping it modest as a sign that it's a summer in hell. And let me be honest, I am flyer than the son of Jarrell. Looking for my lowest lane, got the coldest game for real.
I'm still going.
It's the big spliff napper, the sticky tie smoker, the panda mic center. Spitting wicked lyrics every hour, hit songs every day, we no play, we no linger. Who's that? It's the slackness provider, the wackness eliminator, we are the good vice pusher. Who's that? Spitting lyrics every hour, hit songs every day.
On revient sur les animations du salon imaginaire, Karine.
Oui, tout à fait. Et même avant. Prochain rendez-vous, 16 mai, 9h30, 11h30, à FICA pour l'atelier d'écriture. Le début de ce cycle d'ateliers d'écriture sur la figure féminine. Puis le 22, également à la Dévoreuse, pour un deuxième atelier d'écriture. Donc là, ça va être plutôt le soir, si je ne m'abuse. 18h30, 20h30, c'est sur inscription. Donc n'hésitez pas à vous inscrire par mail aux différentes
entreprises.
Donc salon Tefika et les librairies La Dévoreuse pour le 22 mai. Et puis le salon
24 mai.
Exactement, salon Kurnowski.
Bye bye.